vous n'étiez pas fait de voyage, et que j'ai confronté au texte que j'avais préparé, Haute-Barrette, dans la diaspora, et qu'il s'est trouvé que ces deux textes, finalement, forment une coïncidence qui n'est pas extraordinaire, puisque c'est la même Torah. Dans le nouveau qui initiait un tel et que, bien entendu, Birchut Tara, comme vous le savez, si le but de tout homme est la connaissance, c'est pour ça que j'ai appelé un peu pompeusement les chemins de la connaissance, cette étude de texte, et il ne s'agit pas, on m'a demandé si c'était inspiré d'un livre philosophique qui regarde, c'est tout simplement de France Culture, le chemin de la connaissance, parce que les voies de la connaissance, ça fait un peu poétique, les avenues de la connaissance, ça fait pompier, les boulevards de la connaissance, bon, ça fait boulevard, et finalement, pourquoi ne pas employer tout simplement certains mots, les chemins de la connaissance. Par chemin de la connaissance, en réalité, j'entends à la fois les outils de la connaissance, la méthodologie et l'objet de la connaissance, qui, tout cela devant faire l'objet d'une série de cours, donc Rav Askenazi m'a demandé de faire à partir de la rentrée au centre Rachi, et dans lequel j'essaierai, d'une part, donc, ce serait d'initiation à l'étude, d'apprendre d'abord à lire, pour ceux qui ne savent pas lire, parce qu'à moins d'être débile mental profond, il suffit de 30 à 40 minutes pour apprendre à lire l'hébreu. Et également, apprendre à lire l'hébreu en caractère rashi, parce que là aussi, ça peut sembler un obstacle. Quand on sait lire l'hébreu, il faut 10 minutes pour le faire. Il y a dans cette salle des gens qui pourraient en témoigner. Également des éléments de grammaire et de vocabulaire de façon à permettre l'accès au texte qui est la condition indispensable à toute étude, même pas sérieuse, mais à toute étude digne de ce nom. Apprendre à étudier, c'est aussi apprendre à servir d'un dictionnaire, d'une grammaire, d'une concordance, rechercher des références, rechercher les sources, contrôler éventuellement le sens général d'une phrase dans une traduction, pas étudier une traduction, mais contrôler lorsqu'on est encore débutant. Enfin, ce travail que je fais moi-même, qui suis moi-même étudiant, nous sommes tous étudiants, mais on est à des niveaux, à des degrés divers, pour vous montrer que cela est possible, à condition, bien sûr, de s'habituer à entrer dans la tradition, c'est-à-dire de savoir que l'étude, ça veut dire étudier avec un maître, et étudier avec des compagnons. Vous connaissez la phrase du Pirkei Avos, « Assez le chorar ou fais le chaver. » Fais-toi un maître et acquiers-toi un chaver, un compagnon d'intimité avec lequel tu étudies. Donc ceci pour vous dire que aujourd'hui, dans le texte que j'ai choisi d'étudier avec vous, ce texte c'est le premier donc d'une série de textes. Et il y aura donc beaucoup de thèmes qui sont abordés. Certains thèmes ne seront qu'abordés parce que Mietzé Hachem, nous les reprendrons en détail pour ceux qui sont intéressés dans la série de cours. Et je m'attacherai essentiellement donc, à ce kliyakar que j'ai choisi, qui porte sur le premier verset de la Genèse. Le rapport avec le séminaire sur Mendelssohn et Arskala, je crois qu'il est assez clair. De toute façon, la connaissance se recherche avec la raison. Il ne faut pas faire dire à qui que ce soit ce que personne n'a jamais dit, surtout pas les tenants de la tradition juive. C'est avec la raison. Mais il y a plusieurs façons d'utiliser la raison. Soit une étude autonome, où la raison humaine seule va s'appliquer à la connaissance, soit l'étude avec la raison de la Torah de Moïse. Et là, nous avons une double médiation. L'objet de la connaissance, c'est bien sûr avant tout le monde, la nature, mais c'est aussi ce qui est au-delà, et finalement, la connaissance de Dieu est le problème qui est le plus important pour tout être qui cherche à arriver au bout de la connaissance. C'est le but ultime du désir de connaissance, c'est pourquoi c'est ce problème de la connaissance de l'existence de Dieu que j'ai choisi d'étudier avec vous, et qu'en disant les chemins de la connaissance, cela sous-tend au moins le fait d'arriver à la connaissance de l'existence de Dieu si possible. Alors bien sûr, les problèmes qui se posent, nous les verrons à la rentrée, merci HM, c'est quelles sont les possibilités de la connaissance, quelles sont les limites de la connaissance. Alors il y a évidemment une méthodologie au départ. Vous savez, on voit beaucoup en ce moment dans l'Express, dans Le Point, dans le Nouvel Obs, des publicités pour une banque. Alors on voit un type qui est habillé en tenue sous-marine, avec un harpon, qui est tout malheureux parce qu'il doit aller à la chasse au lion, il se trouve devant un lion, n'est-ce pas, avec son harpon. Il est bien évident qu'on ne va pas à la pêche sous-marine avec un filet à papillon, ni à la chasse au papillon avec un harpon. Il faut donc adapter la méthodologie à l'objet auquel on veut l'appliquer. Différentes disciplines pratiquent la critique scientifique de toutes les productions humaines, mais ils l'appliquent aussi aux textes qui se disent révélés. Bon, c'est le problème de l'époque des Lumières, qui est le début, d'ailleurs, de la critique biblique. Gesenius vivait au XVIIIe siècle, où la Bible est donc traitée comme une production humaine. La démarche traditionnelle est une démarche différente. Elle consiste à approcher la Bible comme un révélé. Alors, qu'il s'agisse d'une science, c'est-à-dire de quelque chose qui soit étudiable, le fait que nous soyons là prouve que c'est étudiable, que ce soit intelligible, j'espère que à la fin des cours, on arrive à voir que c'est intelligible et que le sens en est transmissible. Eh bien, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que le sens en a été transmis. Mais la nature de la Torah, la nature de la tradition, présente une double modalité. Et c'est, je crois, de là que vient une grande partie des difficultés. D'une part, c'est un texte qui est censé venir de Dieu, mais qui est donné aux hommes. Par conséquent, on y trouve à la fois un caractère divin et un caractère humain, mais quand je dis humain, c'est-à-dire de celui qui serait appelé homme. Atem, Kruim, Adam, Velo, Mota, Olam. Vous êtes appelé homme et pas les nations du monde. Ça veut dire, celui qui serait appelé homme, et Rav Ashkenazi, on a souvent parlé dans ces séminaires, pour lire, pour comprendre la Bible, il faut déjà être au moins humain. Il faut déjà être au moins homme. Alors, comment est perçue dans le dit du révélé la démarche humaine de la connaissance, c'est-à-dire exactement le problème inverse de celui de la Haskalah qui essayait d'étudier les textes traditionnels uniquement comme des textes humains, c'est-à-dire exactement l'inverse, si la tradition juive est révélée, elle doit également nous renseigner sur tout comportement humain. Et ce que nous essaierons de voir aujourd'hui rapidement, c'est comment est perçue dans le dit du révélé la démarche humaine vers la connaissance, et en particulier vers la connaissance de l'existence de Dieu. Pour partir, je vous propose non pas de faire comme Descartes, de faire table rase, mais je citerai un enseignement sur lequel M. Gordin, mon maître, Zichrono Livrocho, notre maître, insistait souvent. Il disait, la révélation a été donnée dans le désert. A été donnée dans le désert parce que dans le mot désert, midbar, vous avez d'avoir la parole. C'est-à-dire que pour que la parole surgisse, il faut faire d'abord le désert. Le désert des équations personnelles, des a priori. La révélation naï a eu lieu dans le désert, midbar. Le désert, disait M. Gordin, c'est le lieu de la parole. Eh bien, nous allons essayer d'étudier donc ce texte d'abord en oubliant nos propres a priori, c'est dans un deuxième temps qu'il est tout à fait loisible et même indiqué de faire des rapprochements avec telle ou telle de nos propres idéologies, par exemple. Voilà comment je vous propose d'aborder le texte, en essayant d'être le plus honnête, le plus proche possible du texte. Donc nous lirons ensemble le texte, nous le traduirons dans sa cohérence. Et puis ensuite, c'est à partir des citations et des sources données que nous essaierons de comprendre ce que l'auteur a voulu formuler de la façon dont il l'a formulé. Alors, je vais très rapidement, simplement, mais en quelques mots, aborder un problème qui mériterait tout un séminaire à lui seul, parce qu'il me paraît important, dans le cadre du séminaire sur la Mendelssohn et la Haskalah, et de ce qui a pu être dit au cours de la dernière journée, Bon, la connaissance est-elle possible et de quelle connaissance s'agit-il? Vous avez dans votre double page qui est le début de la Genèse, parce que s'il faut bien commencer, eh bien, commençons par le commencement, même si c'est difficile. Au début, donc, nous avons Bereshis, Boro, Elohim, Es HaShamayim et Es-Orez. C'est comme ça que commence la Torah. C'est là, la première ligne en haut, en gros caractère, la première page. En prémisse, Réchisse, vous l'avez, n'est-ce pas, je vous ai mis quelques mots de base au tableau pour ceux qui ne sont pas très habitués à l'hébreu. Boro, créa, Elohim, Dieu, et suit la terre. Rashi, au début, pose un problème général. Vous avez donc le Rashi là, le premier Rashi, non pas celui à la flèche, mais celui du haut. Et ne lisez que ce qui est souligné, parce que ce qui est entre parenthèses sont des interpolations au texte de Rashi qui était faites par successeur pour le rendre plus clair. Donc, Rashi pose une question. Il faut nous habituer, lorsque nous lisons un texte, à essayer de voir d'abord ce que l'auteur veut dire avant de raccrocher ce qu'il dit à notre propre problématique. Donc, pour l'instant, nous oublions notre problématique, celle du séminaire. Nous essayons de voir comment Rashi entre dans la Torah. Et Rashi pose une question qui est la suivante. Il dit « Bereshis, Omar Rabbi Yitzchak, lo hoyot sorir, le hasril es ha-toiro, elo merhodesh hazeh lochem, ki hu mitzvah rishona, shenistavo bo Yisrael. » La Torah, il n'était pas besoin de la commencer avant un verset qui se trouve dans Shemos, chapitre 12, verset 1. À partir de ce mois-ci sera le début de vos mois, car c'est le premier commandement par lequel Israël a été commandé. Autrement dit, il répond tout de suite à la question fondamentale, la Torah est-elle une législation révélée ou bien autre chose? Et Rashi dit, eh bien, en réalité, apparemment, Rashi semble dire, la Torah, en citant le Midrash, c'est du Midrash Tanhuma, Midrash Rabba, la Torah, c'est essentiellement législation révélée. Donc, il n'était pas nécessaire de commencer la Torah avant la première mitzvah. Mais faites bien attention. La Torah ne commence pas par le chapitre 12 de Shemos. Et Rashi n'a pas pour intention de changer le texte de la Torah. Il veut nous faire prendre conscience du caractère particulier, du fait que, alors que nous savons tous que ce qui est important, ce sont les commandements, les mitzvot, et que par conséquent, on aurait pu dire que si la Torah n'est qu'une législation révélée, il aurait suffi de commencer la Torah par le premier commandement. Si Dieu a jugé bon de faire commencer la Torah par Bereshit, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est par conséquent, il y a une raison. Vous voyez comment se formule cela? Rashi n'a pas la prétention de dire à Dieu comment il aurait dû écrire la Torah. Et la réponse, donc pourquoi la Torah ne commence qu'elle part comme ça? Mishum, parce qu'il y a un verset qui se trouve dans les psaumes 111, verset 6. Koar, Masov, Kigit, le Hamo, Loses, Elohem, Nachalas Goyim. La force qu'il y a dans ses œuvres, dans ses actions, dans ses maasim, il a annoncé à son peuple pour leur donner l'héritage des nations. Que Sheim, Yomru, Omos Olam, le Israël, l'Istimatem, Shekivashtem, Artsos, Shiva Goyim, car ces nations du monde vont dire à Israël, vous êtes des brigands, car vous avez pris de force la terre des sept nations qui habitaient en Eretz Israël avant que Israël n'y rentre. Hem Omrim, Israël répond au présent, répond, on peut répondre perpétuellement. Kol Oretz, chez la Kodosh Boruchu, toute la terre appartient à Dieu. Hu Boro, c'est lui Dieu qui a créé. Et alors, écoutez bien le passage suivant. Le Hu ne sono le mi Yoshob Elov. Hacher Yoshob Elov. Et il l'a donné à celui qui est droit à ses yeux, et non pas comme certaines traductions disent, et à donner à qui bon lui semble. J'ai vu cette traduction, même dans le Zilberman anglais.
Même en anglais.
Même dans le Zilberman, qui est pourtant la meilleure traduction de Rashi à l'heure actuelle.
Il n'y a plus d'enfants.
Et il a donné à qui est juste, à qui est droit, à ses yeux. Birtsono, Nesono, Lohem, selon sa volonté, il a donné à eux, aux nations du monde. Birtsono, Netolomehem, Unsono, Lon. Selon sa volonté, il l'a prise d'eux, il nous l'a donné. Autrement dit, je vous dis, ça serait un thème pour lui-même. Mais cela veut dire que d'emblée, Rashi nous montre que la Torah n'est pas seulement la Torah de l'exception révélée, mais la Torah d'un monde qui a un sens, c'est-à-dire qu'il y a une moralité. Et comme le dit le Kliyakar dans notre passage, lorsqu'il explique ce verset, sinon les nations du monde diront Lo din ve lo dayan. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de justice. Alors d'emblée, Rashi nous montre qu'il était nécessaire de faire le récit de la façon dont Dieu a créé le monde, ce qu'il a fait le premier jour, ce qu'il a fait le deuxième jour, même s'ils ne pourront pas comprendre tout ce que révèle Dieu, et c'est très curieux, la préface de Nachmanide, Ramban, qui est un des grands kabbalistes, la préface à l'introduction à Bereshit, et la préface de Rambam, Maïmonide, qui est considéré comme le grand rationaliste, dans la préface du Moreh Nevouchim des Égarés, tous les deux disent pratiquement la même chose, à savoir que il y a une sagesse très, très profonde, mais qu'on ne peut pas connaître tout le tout de la sagesse. Donc, premier thème, il s'agit bien d'un monde qui a un sens, un monde dans lequel l'histoire est nécessaire pour que l'on comprenne que cette législation s'y insère. Je voulais quand même le signaler dans le cadre du séminaire, ça me paraît important. Et il y a d'ailleurs une Gemara dans Nedarim 9b, qui dit qu'il y a sept choses qui ont été créées avant le monde. Toiro, Tshuva, Ganeden, Yehinom, Kiseh Akuvot, Beis HaMikdash, Ushmo Shel Mashiach. Et il y a un verset pour chacune de ces choses. La Torah, et chaque fois la Gemara le justifie par un verset qui montre que c'était la Torah, la Tshuva, c'est-à-dire le retour, le repentir, le Ganeden, le Gehinom, la Gehen, traduisons par enfer pour simplifier, qui sert à Kovot, c'est-à-dire le trône de gloire, ce qui n'est pas une traduction, mais qui est simplement une translittération de l'hébreu, Beis HaMikdash, le sanctuaire, et le nom du Mashiach. Là aussi, on pourrait étudier cette Gemara pour elle-même, mais simplement, il y a un point commun à ces sept choses, elles sont toutes de l'ordre de la moralité. La Torah, c'est ce qui nous enseigne la moralité sur terre. La tshuva, c'est la possibilité en cas de faute de revenir. Le Gan Eden et la Gehinom sont des lieux de la sanction, de récompense ou de punition. Le Kiseh HaKavod, qui est le trône de gloire, qui est la source de la souveraineté et de la justice. Le Beit HaMikdash, le sanctuaire, le temple, qui était le lieu où se faisait la kapara, où se faisait la réparation des fautes et ce qui permettait au monde de subsister. Et enfin, le nom du Mashiach et vous vous souvenez, dans le séminaire, Rav Ashkenazi a montré que le Mashiach est essentiellement juge. Donc, simplement, cette citation, et je referme la page, pour vous dire qu'il est bien clair que la Torah est peut-être une législation révélée, mais dans un monde qui a un sens, et qu'il s'agit de législation, il s'agit surtout de la révélation de la moralité. Alors, nous attaquons à ce moment-là, le Kliyakar. Mais avant d'attaquer le Kliyakar, étant donné que le Kliyakar, je vous ai dit, il s'agit du rabbin Ephraim Shlomo Ben Aaron de Lunchitz, qui était la prononciation juive de la ville polonaise de Lenitsa, qui a vécu donc de 1950 à 1919, qui a écrit plusieurs bouquins, dont un livre qui s'appelle Le Kliyakar, outil précieux, qui est un commentaire donc, de la Torah systématique, non pas sur tous les versets, mais systématique sur toute la Torah, qui est apparu en 1602 de son vivant. Je tiens quand même que le Kliyakar a fini, après avoir été rabbin en différents endroits, alors c'était un élève de Salomon Luria, le Marshall, et il a été à la tête d'une yeshiva à Lemberg, et en 1604, alors que le Maharal est depuis 1599, je n'ose pas dire grand rabbin de Prague, parce que ça ferait un peu le Havdil curieux, disons, le grand rave de Prague, et qui le restera jusqu'à sa mort en 1609, eh bien, en 1604, alors que le Maharal est le rave Rashi de Prague, le Kliyakar est nommé à Prague Arbeddin et Rosh Yeshiva. Simplement, il est nommé donc à la tête du tribunal et à la tête de la Yeshiva. Il démissionnera d'ailleurs la dernière année de sa vie pour des raisons que j'ignore, que les historiens ignorent. Donc voilà qui est le Kliyakar. Simplement très vite. Alors, comme le Kliyakar, il se trouve sur le texte que vous avez là, dans les éditions Metzudol, il est en très petit caractère. Alors j'ai cru bien faire, il se trouve que j'ai la chance d'avoir chez moi l'édition ancienne du Kliyakar séparée, en plus gros caractère, avec un papier un peu jauni qui donne des taches à photocopie, mais c'est quand même plus lisible. Et j'ai essayé de rechercher, comme tous les commentateurs qui présupposent que les lecteurs auxquels ils s'adressent connaissent bien entendu ce qu'ils citent, nos sages ont dit que de retrouver tout au moins les sources principales qui nous seront nécessaires pour l'étude. Et comme le Kliyakar va se fonder en grande partie sur le premier Rashi, celui qui suit, celui que nous avons lu, qui est dans l'introduction, nous allons très rapidement également lire le premier Rashi. Donc c'est celui où vous avez la flèche. La flèche. Là aussi, je vous demande simplement donc, de lire simplement ce qui est en souligne. Rashi va commencer à expliquer Bereshis Boro, commencement créa. Et Rashi dit Eina mikro, hazé Omer, Elo Dorsheini. Ce verset ne dit pas autre chose que interroge-moi, explique-moi. Et vous avez là en dessous, en abrégé, que mot Shedroshur Razal, comme l'ont expliqué, c'est deux lignes plus loin, les mots en abrégé, comme l'ont expliqué nos sages. Béni leur mémoire, ils ont expliqué comment, qu'est-ce que ça veut dire Bereshis, Bishvil ha-toiro chez Nikreis Reishis d'Arko ou Bishvil Israël chez Nikreu Reishis Tevoso. Cela veut dire Bishvil pour la Torah. Le Bereshis, Be, ça veut dire Be, ça veut dire Bishvil. Je traduis pour, vous verrez pourquoi, pour la Torah, car la Torah est appelée Reishis, est appelée prémisse, du même mot que le Reishis du Bereshis, dans Michelet 8, 22, et que Israël est appelé aussi Reishis, prémisse. Donc la Torah est appelée Reishis d'Arco, prémisse de sa voie, de son chemin, et la Torah est appelée Reishis Tevoso, c'est-à-dire prémisse de sa récolte, dans Jérémie, chapitre 2, verset 3. Alors voici ce que Rashi nous dit, donc là aussi ça mériterait un séminaire entier, au moins un séminaire entier. Que
alors un nerf, pas un séminaire.
Un nerf complet, et avec du nerf. Ce que Rashi donc, nous dit là, c'est que il ne faut pas traduire au commencement, mais que il l'a créé pour. Les sources de Rashi sont dans le Midrash, Rabbah, et vous les donnez si vous le désirez. Elles sont notées d'ailleurs dans le texte du Kliyakar, où je l'ai ajouté. Et ce qu'il veut nous dire, c'est que nous avons un verset où la Torah est définie comme Reishis. Un verset où Israël est défini comme Reishis. Il y en a d'ailleurs d'autres que le Midrash cite. Et il se trouve que Rashi ne choisit que ces deux-là. Il fait un choix. Nous verrons pourquoi. Et par conséquent, le premier enseignement, c'est que Be, ça veut dire Bishvil. Alors Bishvil, ça veut dire à la fois à cause de ou en faveur de. Dans le Midrash, il y a un endroit où l'on dit Bisrous, à cause du mérite de. Donc, c'est pour ça qu'en traduisant pour, je laisse le double sens de à cause de, en faveur de. C'est pour la Torah et pour Israël, comment elle a été créée. Il y a donc un double bet, c'est aussi une lettre, ça veut dire deux en hébreu. Bet Reishit, n'est-ce pas? Be Reishit, en double, avec un double prémisse, Dieu a créé les cieux et la terre. Bon, je m'arrête là pour ce Rashi, simplement, qui veut dire également, vous voyez, donc, perspective, que le monde a un avenir, c'est en vue de quelque chose que le monde a été créé, ce qui rejoint. Donc, ce que nous avons dit tout à l'heure à propos du fait que le monde a un sens il y a un avenir, il y a un but, il y a une finalité. Et maintenant, nous allons donc tout de suite attaquer le Kliyakar, le commentaire du Kliyakar sur ce verset. Et vous allez, nous allons essayer d'entrer là aussi dans la dialectique du Kliyakar de façon très directe. C'est-à-dire d'oublier notre problème pour l'instant, de voir comment le Kliyakar traite le sujet qu'il traite, et ensuite de voir comment ça se rattache à notre sujet. Alors, dans un premier temps, ce que je vous demande, c'est de ne poser que des questions sur le vocabulaire ou sur le sens des phrases si vous ne comprenez pas, et de réserver donc la discussion à la fin de la lecture du texte du Kliyakar. Moi-même, j'essaierai de ne pas faire de digression et simplement d'expliciter le sens des mots dans cette première étape. Vous voyez que le Kliyakar est très direct et qu'il va droit au but. Alors vous pouvez donc, si vous voulez, ceux qui ont de bons yeux peuvent prendre le texte là-dedans, sinon vous avez donc la page séparée à partir de ce qui est souligné. Enfin, donc non pas au haut de la page, mais à partir de ce qui est souligné. Donc dans la feuille isolée. Dans la feuille isolée. Voilà des feuilles isolées, madame.
La voile, elle est isolée. Ah oui.
Non, on a distribué un chat. Ah, elles sont au fond, alors. Non, ça, c'est les deux.
C'est ça, voyons.
Oui, mais je viens de la voir. Je
ne
l'avais pas.
On m'a dit qu'elles sont au fond. Il y a tout un parti, si vous les donnez.
Si, la voilà.
Vous prenez donc à peu près la dixième ligne, là où commence le passage souligné Bereishis Boro Elohim. Bereishis Boro Elohim. Alors, nous avons donc trois mots. Je les ai mis au tableau. C'est là-dessus que nous allons travailler maintenant, uniquement sur ces trois mots. Bereishis, en prémisse, Boro, et le Aleph que j'ai mis pour simplifier, donc première lettre d'Elohim. Min Haro'ui, Hoyo, le Hasril, Hatoiro, le Shem Elohim. Normalement, on aurait dû commencer la Torah par le substantif Elohim. On aurait dû écrire Elohim, Boro, Bereishis. Ad, chez Hutzrechu, Razal, le Shanos, le Talmai Hameler, l'Irsov, Elohim, Boro, Bereishis. Au point que nos sages ont été obligés de modifier l'ordre des mots de la Torah, sous-entendu dans la traduction grecque qu'ils ont faite, le Talmala Meller pour le roi Ptolémée, dans la version des Septante, et d'écrire donc Elohim Boroboréchis, comme cela est précisé dans la Gemara, que vous avez donc la référence en marge, Megillah 9a. Ça veut dire, dit là aussi, le Kliyakar ne dit pas qu'il aurait fallu changer l'ordre de la Torah. Il dit simplement que là, cet ordre de la Torah est dangereux, parce qu'il y a un risque d'hérésie, que l'on pourrait lire que c'est un Bereishis qui a créé Dieu, et vous trouvez ça, j'ai chez moi un grand bouquin dit d'occultiste, n'est-ce pas, de Chauvet, qui explique pendant 20 pages, n'est-ce pas, que c'est Bereishis qui a créé le Dieu. Et la Gemara discute cela, cette référence, et que, par conséquent, dans la version des Septante, pour éviter le risque de lecture hérétique, les sages en grec, parmi un certain nombre de modifications qu'ils ont faites à l'ordre des mots, ils ont écrit en grec « Dieu créa au commencement ». Alors évidemment, la question reste entière. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il pris ce risque énorme ? C'est comme tout à l'heure. Le même problème. Pourquoi la Torah commence-t-elle par Bereishit alors qu'il suffirait de commencer par les mitzvot? Pourquoi la Torah commence-t-elle en inversant les mots? Pourquoi ne dit-on pas directement Dieu créa Bereishit? Pourquoi commence-t-on par inverser et à mettre Dieu à la fin avec ce risque, cette hérésie? Alors nous continuons le texte. Voilà, vous avez compris le problème. Vous avez compris, voilà comment est la question. Pourquoi la Torah commence-t-elle pas par dire Dieu créa le monde, mais à mettre d'abord Bereishit en commencement, en prémisse, et puis créa, et seulement Dieu ensuite. Ve'alze nosenu ha'meforshim tam le shebar. Et à cette chose, à cette disposition du texte, les commentateurs ont donné un sens en louange, un sens laudatif. Laudatif, nous verrons pour qui, pourquoi. Le fi, chez Metzias, Hashem Isborach, Yevchar le Hasig, qui mitzav de Rochov, ou Peloosov, ou Maase Yodov, Asher Boro. Étant donné que l'existence de Dieu, il n'est pas possible de l'atteindre, il n'est pas possible de la concevoir, si ce n'est à travers ses chemins, ses actions et l'œuvre de ses mains qu'il a créées. Heima yehidun yehidun yisenu eidus Hashem neemono al metziuso isborach. Toutes ces œuvres, etc., que Dieu a créées, elles témoignent, elles annoncent, elles donnent un témoignage sur Dieu digne de foi, un témoignage sur l'existence de Dieu. C'est pourquoi il a écrit d'abord Bereshis, Boro. Il a écrit d'abord, comme c'est écrit dans la Torah, effectivement, Bereshis Boro, et ensuite, Noda Elohim a été connu Elohim. Donc, première thèse, la connaissance de l'existence de Dieu n'est pas possible directement. Il faut passer par la création. Il faut passer par le monde créé, qui est un moyen de connaître, de reconnaître l'existence de Dieu. Et aussitôt, le Kli Yakar formule une objection. Non pas une objection sur ce qu'il a dit, mais une objection. Si vraiment c'était là la seule raison, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Elle veut cocher Alzé. Et il y a une difficulté sur cela. Le Havelei, le Mirta, Borelokim Bereshis. Car si nous voulons démontrer cela simplement, il suffirait d'écrire, parce que j'ai marqué la deuxième ligne, Boro Elohim Bereshit. À ce moment-là, d'accord. Commençons la Torah par le mot Boro. Boro, il a créé. Mettez ensuite le nom de Dieu et terminez par Bereshit. Qui, Kolma Sheyokol, le Hagdim Hashem, Hadin Nosen, le Hagdimo. Car chaque fois que l'on peut mettre le nom de Dieu avant, eh bien, c'est une loi, c'est une règle de mettre le nom de Dieu. On ne peut pas mettre le nom de Dieu en premier, on peut le mettre en deuxième. Donc, l'on écrit, vous suivez. Bon, je pense que c'est clair. Chez Harei, le Kliyaka explique, Ein metzios Hashem tolui veyedia sa devorim hamukdamim veyetsira. Car la connaissance de l'existence, de Dieu ne dépend pas de la connaissance, ne dépend pas des choses qui précèdent l'organisation de la création. Asher alze more milat bereshis, le das rov hamefarshim. Car c'est à ce sujet que enseigne le mot bereshis, son explication de la plupart des commentateurs. C'est clair, puisque bereshis se trouve avant boro, et boro s'est créé. C'est que le Bereshis enseigne sur ce qui est avant la création, sur Atzilut, pas sur Beria. Par conséquent, si la connaissance de Dieu passe par la connaissance du monde créé, ce n'est pas dans Bereshis que nous allons trouver les éléments nécessaires. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de mettre Bereshis d'abord, puisque c'est dans Bara que nous allons trouver. Bereshis, d'après la plupart des commentateurs, ça nous apprend des connaissances sur des phénomènes antérieurs à Beria. Ça va ? Ve'od chez Balakeida, Samar Pirajze al-Hamidrash. Et le Balakeida, donc l'auteur de Akeida Yitzhak, c'est le Rav Arama, il a vécu de 1420 à 1494. a écrit dans son livre Akedat Yitzhak, en se basant, le Baal Akeda a rattaché cette explication à un Midrash qui se trouve dans Bereshit Rabba, donc vous l'avez là, 1:12, et ce Midrash explique un verset qui est, attention, un verset de Samuel, non pas des psaumes, parce qu'il y a deux versets identiques, mais c'est celui de Samuel, Shemuel 22:36, qui dit la chose suivante, « Ve an vostro tarbein » Anava, n'est-ce pas, c'est l'humilité, et ton humilité m'agrandira. Il y a un verset dans Samuel, bon, tout cela nous reprendrons en détail au cours de la série de cours l'année prochaine, nous verrons les textes en eux-mêmes, les citations en elles-mêmes. Ce verset dit « Ton humilité m'agrandira » en parlant de Dieu. Et l'auteur donc, de l'Akedat Yitzhak rattache ce qui vient d'être dit. Il cite en effet, c'est dans le Shar Rishon, il cite le Midrash qui va suivre, qui explique l'humilité de Dieu qui agrandit l'homme de la façon suivante, ce qui va suivre, il le rattache à notre sujet qui est celui de la connaissance de l'existence de Dieu par la création. Vous voyez ce que le Kiyakar dit dans cette série de citations. Et que dit donc ce Midrash ? Le Midrash cité par le Midrash qui explique le verset cité par la Kiyakar d'Israël est le suivant. Meler, bosor vodom, maskir shemo techilom, acharkar mansor. Un roi de chair et de sang mentionne son nom d'abord et ensuite ses œuvres. Aval, hakodesh boruchu, mishe hiskir mansor, hu maskir shemo. Mais le saint béni-t-il, il mentionne d'abord ses œuvres. Et ensuite, il mentionne son nom. On pourrait d'ailleurs lire autrement aussi, Mif et Iskir, du fait qu'il mentionne. Enfin, dans le sens du Midrash, ce n'est pas ça. C'est après qu'il mentionne ses œuvres, il mentionne son nom. Donc, le Kriyakar introduit ici donc un nouveau problème. Il dit, si nous voulons comprendre pourquoi il ne suffisait pas de commencer la Torah donc par Boro, puisque Bereshit n'est pas censé nous renseigner sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, pour comprendre cela, nous allons prendre un texte qui veut expliquer un verset qui dit « Ton humilité nous agrandira ». Et le Midrash explique en quoi consistait l'humilité de Dieu en disant « Un roi ordinaire mentionne d'abord son nom ». Nous, Louis XIV, Roi Soleil, etc. Napoléon, empereur des Français. Tandis que Dieu mentionne d'abord ses œuvres, tout ce qu'il a fait, et ensuite simplement son nom, puisque il y a d'abord marqué Boro, qu'il a créé, et ensuite Elohim. Mais alors en quoi, évidemment, quel rapport avec, en quoi ça explique-t-il que ton humilité nous a agrandi. C'est ce que le Kiyakar va tout de suite demander. Veyesh, le Hisbonein.
Je pense qu'on pourrait tout de suite ajouter, et en quoi, pas seulement Bara, moi, Loki, mais aussi Bereshit.
C'est ça. Oui, il va expliquer après, d'ailleurs. Bereshit. Il veut expliquer pourquoi Bereshit. C'est un problème. Bara, nous l'avons expliqué déjà. C'est Bereshit qui veut expliquer.
Est-ce?
Mais apparemment, il veut l'expliquer de façon curieuse, puisqu'il cite un verset qui ne parle que de Bara, apparemment. Veyesh le hisbonein. Et il y a lieu de réfléchir profondément. Mahu anvos noso bosé. En quoi est-ce que le fait d'avoir mentionné donc son nom avant, en quoi c'est... En quoi est-ce que cela est une preuve d'humilité pour Dieu. Ou Marouzé chez Omar Tarbeini. Et qu'est-ce que cela veut dire qu'il a dit cela t'agrandira, parlant de l'homme, parlant d'Israël. Là, il y a une faute d'impression, c'est pas Harab, je crois, c'est Harobéou, n'est-ce pas? Bama, Yirbo, Yigdil, Osonu. En quoi est-ce qu'il nous a augmenté, en quoi cela nous a augmenté et agrandi? Alors il va répondre donc à cette question. Et il me semble vrai de dire, le plus proche pour moi de dire, que Rashi, dans ce que nous avons vu tout à l'heure, l'explication de Bereshis, a voulu établir tout cela dans le fait qu'il a dit Eina mikro emer elodor sheini bishvil la Torah beIsrael chez Nico Bereshis, parce qu'il a dit ce verset ne signifie pas autre chose que explique-moi pour la Torah et pour Israël qui sont appelés Rechis. Rotzelomar, c'est-à-dire le fi chez Yefchar le Hakir Metzius Hashem Isborar qui im al yodeh ha Torah beIsrael. Parce qu'il n'est possible d'atteindre, de connaître l'existence de Dieu que par la Torah et par Israël. Alors nous avons un nouvel élément. Tout à l'heure on avait dit par la création. Mais là il dit qu'on ne peut atteindre, donc arriver. C'est ça que Rashi veut dire, dit-il, en expliquant comme il a fait le mot Bereshis. On ne peut arriver à connaître l'existence de Dieu que par la Torah, par Israël. Al-Kei Nikro Reshit. C'est pourquoi ces deux, la Torah Israël, sont appelés Réchis, Prémisse, Kishneem, Hakdomo, Lovo, Aliodom, Lide, Hakarat, Metzir, Tachemizbora. Car les deux sont un préliminaire, ils sont une préface pour venir par leur intermédiaire à la connaissance de l'existence de Dieu. Kira Toiro, Mapar Semes et Mounas, Hachidush, car la Torah, eh bien, répand la foi dans Hidouche, le fait que le monde est nouveau, c'est-à-dire, en somme, par conséquent, qu'il n'est pas éternel, qu'il est créé, répand la connaissance du fait que le monde est créé, et également, Elukoso Isborach, Hidouche, c'est ça, Elukoso Isborach, répand donc la notion, la foi dans le fait que le monde est créé et dans la divinité. Le caractère de Elokut, d'être Dieu, de Isborar, de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas les mêmes termes. Israël, Gamru, Yoda, le Farsem, le Tzir, Hashem Isborar. Et Israël également a su répandre la connaissance, sous-entendu, de l'existence de Dieu, Mitzat, Hakabolo, Shekiblu, Ish, Mipi, Ish, par le fait de la connaissance reçue, Kabbalah, c'est la réception, le mot qu'il va donner plus tard, Kabbalah, par là, de cette connaissance reçue et transmise, qu'ils ont reçue chacun, un homme d'un autre homme, ad udom harishon, en remontant jusqu'au premier homme, chez Ro et Solom, qui a vu le monde détruit et construit, Vehu, et lui le premier homme, Ed Neeman, le Chidou Shaolam, il est un témoin digne de foi du fait que le monde n'est pas éternel, Asher Hu, et ce fait que le monde n'est pas éternel, qu'il y a un Chidouch, qui est une nouveauté, Hu Mofes, Al-Mechadosho. Ceci est un argument, une preuve, en faveur de celui qui l'a créé. Venis Pashto, Kabolozu, Bezera Avroam, Yitzhok Beisroel. Et cette Kabbalah, cette connaissance reçue et transmise, eh bien, s'est répandue dans la descendance d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alors, jusqu'à présent, bon, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair dans la cohérence du Kliyaka? Il y a donc la connaissance de l'existence de Dieu passe par des médiations. Première médiation obligatoire, c'est la connaissance du monde. Mais deuxième médiation, on passe par Israël et par la Torah. Et cette médiation, elle est placée, donc même de façon curieuse, encore avant le mot bara. Parce que Israël et la Torah, on trouve dans la Torah la possibilité de voir que Dieu existe. La Torah permet d'avoir la foi dans l'existence de Dieu. Et Israël, c'est celui qui a reçu depuis le premier rang. Vous voyez, on n'est pas raciste. Adam n'était pas juif, n'est-ce pas ? Donc c'est vraiment une possibilité humaine depuis Adam Arichon, en remontant jusqu'à Adam Arichon, qui avait été lui le témoin. Nous croyons dans le témoignage d'Adam Arichon, et donc cette transmission jusqu'à nous, qui répond également à la connaissance de la Torah. Alors ça, c'est donc le premier chemin, un des chemins de la connaissance. C'est la connaissance par la médiation de la Torah de Moïse, la Torah d'Israël, la Torah d'Israël. Alors là, le Kli Yakar ajoute, et nous continuons, « Veyesh od derer shlishi ». Il existe une troisième voie. Aval ein kol odom yochol amod olam, mais pas tout homme a la possibilité de se tenir sur ce chemin. Ça veut dire qu'il y a un troisième chemin, mais il n'est pas à la portée du premier venu. Vous verrez avec quel humour le Kliyaka va répéter ça deux ou trois fois. Et en quoi est censé ce chemin? Vehu le hakir metzias hachemisborah mitor ha hakiro